这感觉，这地方，这个女的不是这个人，人什么的。哎，我们这不，la chance, si je puis dire, d'avoir ce soir l'auteur, Arnaud Catrine, puisque Arnaud Catrine fait partie des acteurs qui vont lire et s'emparer de ce texte sur la direction de Milan, avec trois comédiennes, l'un que vous connaissez. Je t'appelle, vous avez vu souvent à Marseille, Catherine Pérotte, vous avez souvent vu à Marseille, et Julie Rocroix. Donc, ce que je vous demanderai, c'est après la représentation, enfin la représentation, dans la lecture, n'est-ce pas ? Ce que je vous demanderai, c'est de rester là et d'entamer un dialogue avec une nombre d'échecs, Caroline de la soirée, et Arnaud Catherine, et bien sûr, les trois comédiennes. Après la prochaine lecture, mise en espace, qui aura lieu en décembre, alors, c'est, là je vous recommande aussi, évidemment, de venir, là, c'est sûr. C'est compliqué, mais bon. C'est une lecture opéra, non, c'est assez original. C'est une lecture opéra que va faire Violaine Schwartz. Violaine Schwartz, vous la connaissez peut-être. Elle a fait ici une soirée opéra avec sa sœur, où elle chantait des chansons de l'après-guerre, d'avant-guerre, avec sa sœur au piano, et elle a joué aussi dans le spectacle d'Hermann dans le passé du pôle. Et Violaine Schwartz a écrit son premier roman, qui s'appelle La tête en arrière, en roman, qui est prononcé pour le féminin. Parce qu'elle aura bien sûr, mais c'est une actrice extraordinairement généreuse, et cette soirée de lecture opéra, parce qu'elle va chanter, des parties de son roman, et elle va l'en dire. Je ne vais pas vous dire davantage, mais vous l'aurez dans la prochaine revue. Alors, je vous invite aussi à venir voir et écouter Nada Sankar en novembre, qui chante du Brecht. Sur les musiques de Dassau, c'est Christian Scaretti qui a organisé cette soirée avec Nada. C'est le DNB qui n'est pas venu avec lui depuis longtemps. C'est une soirée remarquable. Et Nada, Brecht et Dassau sont pas rien. Voilà, alors à tout à l'heure, hein, ne partez pas. Thank you.
on ne peut jamais savoir, jamais. Ceux qui vous diront le contraire mentent. Ceux qui vous diront le contraire sont de la race des agents immobiliers. Imaginez seulement, vous visitez des dizaines d'appartements. Enceinte de 6 mois, rendez-vous vous fixez après le boulot, au moment où la lumière décline, allez vous faire une opinion dans le noir. Et Richard qui rentre rarement avant 21h, jamais là pour m'accompagner, toute seule en somme, toute seule. Des dizaines d'appartements qui vont du plus sordide au plus inabordable. Ceux qui vous prédisent que les prix vont baisser mentent. Ceux qui vous prédisent pareilles conneries sont bien tranquilles chez eux. Ils ne cherchent pas à se loger. Ils ont trouvé, il y a déjà 10 ans, quand on pouvait encore trouver. Des dizaines d'appartements plus petits les uns que les autres. Enceinte de 6 mois, il fallait bien penser à la petite, 3 pièces minimum. Alors d'accord, nous aurions pu tout aussi bien aller vivre à Brighton, Dixit, la mère de Richard. La mère de Richard vit à Brighton. Des dizaines d'appartements. Et vous devenez folle. Alors quand par miracle vous tombez et passez 6 mois de pérégrination vaine, autant qu'il avait fallu pour gonfler mon ventre sur un appartement vivable, potable, vous voilà prête à tout, reléguant à un avenir rêveur le coup du loft avec terrasse, et j'en passe. Quand 60 mètres carrés vous tendent les bras à 1 heure de trajet de vos boulots respectifs, quartier résidentiel, calme, parfait, ni chien, ni moteur, vous dites tout naturellement, banco. Et tant pis pour Richard qui ne l'a pas visité. Alors vous dites, banco. Richard a compris. Richard s'est montré très conciliant. Sa mère, non. Lui, oui. Ça s'est fait très vite. La petite aussi. Elle avait 3 semaines d'avance. Autrement dit, qu'elle est quasiment née dans les cartons. Richard y a mis du sien pour défaire ses satanés cartons et préparer la chambre de la petite. Sa mère nous a fait venir à Brighton pour lui présenter l'enfant. Elle ne s'est pas déplacée, je l'aurais parié. En dehors de ça, tout s'est plutôt bien passé. Dans l'urgence, certes. Mais une semaine après avoir emménagé et accouché, j'étais encore surprise que le cours des choses nous ait prêté main forte et que nous ayons accompli ce marathon qui n'allait pas de soi. Et puis, elle est arrivée. C'était un jeudi, en avril dernier. Elle avait dû visiter l'appartement en journée. Nous ne l'avons pas vue venir. On a été mis devant le fait accompli. Elle emménageait. Une petite poule de 30 ans. Célibataire, manifestement. Je n'ai rien contre dans l'absolu. Moi-même, je me dis parfois, enfin, n'allons pas de ce côté-là. Une poule de 30 ans, donc, affable, souriante, Jennifer Wilson, enchantée. Je ne comptais pas sympathiser plus que ça. Les dîners entre voisins, très peu pour moi, je laisse ça à la mère de Richard et à Brighton. Mais enfin, voisine de palier, autant que les choses se passent bien, voisine de palier, c'est toujours bon pour dépanner. Et ça a commencé dès le premier soir. La petite dormait. J'ai regardé un épisode de Absolutely Fabulous. Richard lisait son journal. Nous deux, allongés entre des draps lisses et familiers, dans une atmosphère tout à fait paisible et propice au repos. Et là, les gémissements. Et très vite, les cris. Des hurlements. Richard tourne la tête de mon côté. Tu entends comme moi ? Oui, j'entends comme toi, elle baise. Je ne le dis pas ça, comme ça. Je ne sais plus quelle est ma formule. Richard opine, il dit, mais elle est seule, elle se prend. Nos chambres sont mitoyennes. On entend son corps buter contre le mur, ce même mur où Richard et moi sommes adossés, lui lisant son journal, moi suivant les frasques de Absolutely Fabulous. Et l'autre qui se branle dans le vacarme le plus invraisemblable. 20 minutes plus tard, la poule dort. N'en parlons plus. Et espérons qu'un gogo danseur ne vienne pas un de ces jours ajouter ses râles à cette fanfare qui vient de nous rappeler, Richard et moi, à l'embarrassante absence de sexualité qui nous frappe depuis que la petite est née. Et encore dois-je avouer que l'enfant fut conçu dans un moment d'exception pour m'embrosser précisément, le plaisir du sexe ayant déserté notre couple depuis longtemps déjà. Pour commencer, Richard et moi, ligués dans l'assurance du dérangement occasionné, nous râlons de concert, parfois jusqu'à couvrir les gémissements de la poule. Ces cris atrophiés, mais bien retentissants. Jamais elle ne cesse. Elle va jusqu'au bout, la poule. Et quand nous la croisons, rarement, je ne sais même pas si elle travaille, quand nous la croisons dans l'ascenseur, elle affiche un sourire dégagé. Elle s'examine dans le miroir, replace sa frange et tapote ses lèvres comme pour atténuer le carmin de son rouge à lèvres. Méconnaissable la poule. Il y a deux poules. La poule qui se branle et nous pourrit la vie. Et puis la poule qui vit sa vie et nous gratifie de sourires inconséquents quand nous aurions envie de lui demander des comptes et, si l'occasion s'en présentait, de l'étrangler. Le plaisir passe. Le dérangement occasionné, non. Seulement, voilà. Presque tous les soirs, comme ça. 3 mois passent. La grogne de Richard s'étouffe. Je crois qu'il prête parfois l'oreille, reposant son journal, puis l'abandonnant purement et simplement, prétextant une grande fatigue et se calfeutrant à l'autre bout du lit pour profiter de ce qui n'est plus une nuisance, mais à l'évidence un ravissement. Je le vois de biais, tandis qu'il me pense absorbé par Ad-Fab, d'Odéliné du bassin. Il ne va pas se branler, lui aussi. Non, il a la générosité d'aller aux toilettes pour se finir. Un très grand moment de solitude pour moi. Je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en réalité, je sais très bien ce qui se passe. Une poule vient de ranimer l'essence de mon Richard, mais il est bien entendu qu'il ne compte en rien à me convier au feu d'artifice. 3, 4, 5 mois passent. Ainsi, Richard rentre de plus en plus tard. Il prétend que la BBC l'accapare. Il se couche de plus en plus tôt, se tient de plus en plus loin de moi dans le lit, et Jennifer Wilson beugle. La petite, quant à elle, est gentille, même si ses airs béats m'exaspèrent un tantinet. C'est elle au moins ce qui se joue chaque soir au pied de ce mur mitoyen. Le contentement de Jennifer Wilson qui aura bientôt mis à pied le nôtre. Le 16 mai dernier, Richard n'est pas rentré. Je n'ai rien vu venir. La veille, nous avons passé une soirée charmante avec Rebecca Swift, une collègue de Richard. J'ai senti un regain d'affection de Richard à mon endroit. Le 16 mai, Richard a écrit une lettre à sa mère qu'elle m'a lue. La dernière trace de lui. La poule ne se branle plus. Les soirées sont redevenues calmes, d'un calme terrifiant. Elle habite toujours l'appartement à côté. Non, Richard n'y est pas. C'eût été trop simple. Richard est parti. Et la poule fait silence. Je suis seule à tendre mon sein parfait à la petite qui n'en veut pas.
Crois-moi, j'avais décidé que je n'aimerais pas Richard. Qui plus est, j'avais décidé que je n'en parlerais à personne, ce qui forme assez vite et couramment la matière d'un secret de polichinelle, j'en conviens. Ma décision ferme et irrévocable était donc de ne pas l'aimer. J'ai connu Richard il y a 1 an, il est entré à la BBC juste avant moi. Notre collaboration allait bon train, j'écrivais les textes des bandes-annonces, lui montais les images. J'aimais m'installer à côté de Richard et regarder les films en sa compagnie. J'aimais tout ça. Me suis-je dit les premières semaines, au lieu de quoi je commençais à aimer Richard, me suis-je finalement avoué au bout de quelques semaines. Alors, la question s'est posée. Car quand on commence à aimer, il s'agit de décider si l'on va aimer ou non. Je veux dire, s'abandonner ou pas. Tu ne pourras jamais mesurer l'entente lumineuse qui nous a pris d'un même ciment, Richard et moi. J'ai rarement vécu ça. On ne fait pas tant de rencontres de cet ordre dans une vie. J'avais donc décidé de ne pas aimer Richard pour cette première raison, la perte. Non pas pour m'éviter les affres du sentiment amoureux qui ne me déplaise pas, tu t'en doutes. Il est connu qu'on se sent plus complète dans l'incomplétude qu'engendre l'état amoureux. J'avais décidé de ne pas aimer Richard, disais-je, non pas pour m'éviter les enivrantes tortures qui découlent inévitablement de cette expérience puérile et magnifique qu'est l'amour, mais parce que je tenais plus que tout à garder Richard dans ma vie. J'avais donc décidé que Richard serait mon ami, mon précieux, et non mon amour. Si tant est qu'à un quelconque moment il y eut une chance pour que Richard soit amoureux de moi, et tu voudrais, je le sens bien, que je m'explique sur ce point. Quelle était la situation affective de Richard pour que j'espère tant et si peu? À vrai dire, je n'ai pas tout à fait statué sur cette question est complexe, puisque Richard était marié, Richard et Suzanne venaient d'avoir un enfant, ils avaient acheté un 60 mètres carrés, quartier résidentiel, calme parfait, ni chien, ni moteur, le rêve. On peut donc considérer qu'il y avait obstacle. Qui plus est, je ne suis pas de celles qui vont foutre le bazar chez les autres, tu me connais, mais voilà. Richard avait une vie de merde. Je tiens de Richard lui-même qu'il avait une vie de merde. Et j'y reviendrai, même si je m'en veux d'employer des mots si durs. J'avais donc décidé que je n'aimerais pas Richard, j'aimais trop Richard pour prendre le risque de l'aimer et donc de le perdre. Dommage qu'il y eut l'appréhension de la perte, grand dommage parce que Richard, lui, quoi, comme on en rencontre rarement. Or, on ne peut aimer sans admiration, je veux parler d'une admiration colossale, de même qu'on ne peut aimer sans amitié, une amitié colossale et sans un désir colossal, et toutes sortes d'ingrédients que beaucoup sous-estiment, se levant dans une coquille qui s'avère creuse lorsque la passion s'assagit. Mais avoue qu'on ne tombe pas amoureuse dans l'invention de l'autre la plus totale. Il faut bien que ses yeux clairs et profonds m'aient tendu quelques perches. Il faut bien qu'une fréquentation jouissive de l'animal m'ait appris qu'il se jouait quelque chose de son côté, qu'il le reconnaisse ou non. J'affirme qu'on ne tombe pas amoureuse de son seul fait. J'ai donc buté de longues semaines sur cette obsession de la perte, ce qui m'aidait très certainement à oublier Suzanne, l'enfant, l'appartement, bref. L'impossible, je pensais, la perte. Et puis, je suis très peu douée en amour, c'est un fait. Parce que je suis fade, et assez commune, et par trop indépendante, je crois. Très peu digne d'être aimée une vie durant, ne fait pas non. Il m'arrive d'être intéressante, il m'arrive de tenir une soirée à me montrer affable, voire pertinente et pleine d'esprit, mais va partager mon lit, mon thé matinal, mes soirées, et j'en passe. Je ne vaux guère mieux que la majorité des minables humains et la majorité est ennuyeuse à pleurer, c'est une évidence. Ce fut la première réelle confession de Richard, un soir au pub. Et je ne pouvais pas me permettre de le faire taire, il n'aurait pas compris, alors je l'ai laissé raconter. Richard s'était marié avec une conne. Alors c'est une vilaine façon de résumer l'affaire, mais tu auras saisi l'idée. Suzanne était vraisemblablement une gentille fille, mais sitôt l'enfant conçu, Richard avait cruellement pris conscience qu'il avait engrossé une fille convenue, sans grande personnalité et à qui il n'avait pas grand-chose à dire. J'oublie de te dire que Richard vient d'un milieu pour le moins corseté, le même que nous en somme. Alors tu comprendras parfaitement l'odieux diktat qui l'a amené à épouser puis engrosser une conne. Richard a fait ce qu'on attendait de lui pour s'apercevoir de son erreur à 30 ans. Par je ne sais quel miracle, Richard me confia donc qu'il avait disparu de sa propre vie et que les seuls moments où il se sentait vivre, c'était ceux que nous partagions à la BBC. Ce fut un choc. J'aurais vraiment voulu le faire taire car quelque chose en moi s'était immédiatement réveillé à l'écoute de le trouvais beau à l'époque. Sans doute est-ce venu plus tard, une fois la brèche ouverte. Mais quel choc ! Cette phrase, les seuls moments où je me sens vivre, c'est avec toi. Difficile de résister à ça. Je suis forte. Je ne suis pas de celles qui vont foutre le bazar chez les autres, tu me connais, mais là, le coup près fatal finit par tomber au moment où il prononça la deuxième phrase, la fatidique. Je me dis parfois que c'est une fille comme toi qu'il me faut. C'était un exemple, sans doute une hypothèse, une projection de ma part, mais le point de non-retour pour moi était atteint. Et c'est alors que j'ai commencé à l'aimer contre mon gré. C'est alors que j'ai commencé à m'en défendre, à me l'interdire et à échouer. Bien sûr, je n'avais rien vu venir puisque c'était venu d'un coup, ces choses-là viennent d'un coup comme les crises cardiaques. Il y eut alors la question de son corps. Oui, j'aurais dû m'attendre au pire. Une fois la brèche ouverte, le corps allait venir. Avec, c'est dangereux, un ami de la sorte, c'est dangereux parce qu'une fois la brèche ouverte, le corps, fatalement, vient avec. Ainsi disais-je, peu après avoir commencé à aimer Richard, je commençais à le désirer aussi. J'étais foutue. J'étais foutue, les journées, les semaines, les mois, les confessions, les rires se sont succédés. Et très vite, il m'est apparu que je ne voyais plus Richard avec le même regard. J'ai commencé à le regarder de plus en plus, son corps, et à travers les vêtements, imaginez ce qu'il y avait dedans. Or, c'est le début de la fin, quand on s'engage par là, non plus qu'un parfum, et on est pris dedans. Ai-je souffert ? Je ne saurais le dire. Jusqu'à ce fameux dîner, non. L'idée d'être invitée à dîner chez Suzanne et Richard fut une chose difficile à débrouiller dans mon esprit. Je fis bonne figure, je crois. Je fis ce que Richard attendait de moi, me montrer bienveillant et neutre avec Suzanne et l'aider en cela à prendre une décision, à prendre la décision. La soirée se déroula donc sans encombre, je ne souffrais même pas, l'être humain est curieux, jusqu'à ce moment critique où Suzanne disparut dans la cuisine pour préparer le dessert et où Richard m'annonça à mi-voix qu'il avait décidé de quitter Suzanne. Jusque-là, rien de très surprenant, c'est après. Et il faut croire que l'après me fit l'effet d'une chaise électrique, puisque ma mémoire cafouille, je ne me rappelle les phrases de Richard que par bribes, une voisine, une certaine Jennifer, je ne comprenais pas exactement de quoi il retournait, s'il s'était passé quelque chose entre eux, toujours est-il qu'il avait réalisé, je le cite, qu'il devait quitter Suzanne à cause ou grâce à la voisine. Il avait enfin réalisé. Alors ce fut une déflagration. Une voisine l'avait d'une quelconque façon déstabilisé. Pas moi. Une simple putain de voisine avec qui il n'avait peut-être même pas baisé. Pas moi. Je ne fis aucun commentaire. J'ose espérer que Richard n'a pas mis les voiles avec la voisine. Oui, j'abandonne mes grands principes pour prendre acte de la souffrance que ce serait d'apprendre que Richard est parti avec la putain de voisine. L'incertitude m'arrange, restons-en là, mais quand j'y pense, la souffrance que ce serait d'apprendre que la fille qu'il lui fallait, c'était la putain de voisine. Je me suis posé mille questions plus ou moins idiotes, plus ou moins légitimes pour expliquer la soudaine disparition de Richard. Les hypothèses m'ont lassée, fatiguée. Je ne veux même plus chercher à comprendre.
Une information cruciale reste bloquée dans un embouteillage dommageable à votre compréhension de l'autre. Mon fils, en l'occurrence. L'infirmière a déposé la lettre sur ma table de nuit en fin d'après-midi. Je la connais par cœur, cette lettre atroce, cette logorée odieuse. J'en connais chaque mot avec une exactitude cruelle. La dernière trace de lui. J'étais donc hospitalisée, une vulgaire chute en sortant de la douche, fracture du col du fémur tout de même. Hôtel de Brighton, un mal de chien. Robin est arrivé en moins de 2 jours, ma très chère Catherine a passé le plus clair de son temps à mon chevet, mais Richard, rien, pas un coup de fil. Et puis, l'infirmière qui dépose la lettre sur ma table de nuit en fin d'après-midi. Elle voit mes yeux briller, j'allais la savourer du fond de mon lit d'hôpital.
Tokyo. Oui, tu as bien lu, maman. Tokyo. Dans 5 jours. Gatwick, Terminal C. Escale à Copenhague. Absurde cette escale à Copenhague.
Sur le coup, j'ai pas compris. Et personne n'aurait compris à ma place. Brighton, Londres, Tokyo, même un vol d'oiseau, l'imagination du maire ne va pas jusque-là.
Tokyo, maman. Hier, j'ai croisé mon reflet dans la glace. J'ai réalisé que j'avais 30 ans. J'ai 30 ans. Une vie affective désolante, inféodée que je suis à tes griffes et à celles de Suzanne. Et alors, c'est tombé comme une évidence. Que dis-je? Comme un coup près. Tokyo. Maman, comment as-tu pu laisser faire ça? Alors voilà, je ne dis rien, jamais, personne ne dit jamais rien dans cette famille, mais pour mes 30 ans, je dis Tokyo. Je romps le contrat. Je ne respecte pas les 3 mois de préavis. Je me casse, maman. Rebecca a raison. Une lopette.
Mais je ne connais aucune Rebecca, pensais-je aussitôt. Trop facile de m'asséner de Rebecca en plein cœur, alors que j'avais tout fait pour que les choses se passent bien avec l'autre fadasse de Suzanne. Gratinée, celle-là. J'avais déjà suffisamment pris sur moi. Gentille Suzanne. Oui, gentille. Une truffe, oui. J'avais pris sur moi pour renoncer à l'espoir de voir mon fils se marier avec une femme digne de ce nom. Et maintenant, Rebecca.
Oh, elle ne l'a jamais dit comme ça. Rebecca n'oserait pas, mais elle le pense très fort. Tu as enfanté une lopette. Oh, je t'interdis de pleurnicher, ne fais pas ta flaque. Encore 10 ans comme ça, et moi, je n'aurais définitivement eu le courage de rien, ni d'aucun destin. Tokyo.
Je ne comprenais rien à cette maudite lettre. Je forgeais l'ombre d'un instant l'hypothèse d'un cauchemar ou l'effet pernicieux de la morphine qui m'aurait fait délirer. Une mère peut aller loin dans le déni pour différer le moment où il lui faut prendre acte de la signification des mots, ces mots-là. Je ne connais aucune Rebecca.
Tokyo, maman. Et tu te rappelles le jour de la mort de ton père? Les signaux qu'il me lançait désespérément, je ne l'ai jamais connu aussi vivace qu'à l'article de la mort. Ces œillades terrifiées qu'il me lançait. « Deviens ce que tu es » a-t-il murmuré pompeusement, et toi, tu as poussé un soupir agacé. « Mais casse-toi, ça voulait dire. Ne fais pas comme moi. » Le jour de la mort de grand-père, il y avait déjà Tokyo. Le jour de la mort de grand-père, j'ai lu Tokyo dans ses yeux.
Il a écrit ça, mon fils. Et je me demandais qui pouvait bien être cette nuisible Rebecca. Je me demandais aussi comment mon fils pouvait mêler mon père à tout ça.
Tokyo, et je t'interdis tout chantage. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, maman? Tu ne mérites rien du tout. Tu es depuis bien longtemps dans un au-delà du mérite. Rebecca a raison, Tokyo, et tu n'as pas le choix.
Mon fils.
Je profite de ton séjour à l'hôpital pour prendre la tangente et ne dramatise pas ton quotidien. Le col du fémur, c'est courant à ton âge. C'est friable, ça casse. En ce qui me concerne, je rends l'âme. Tokyo, ciao. Je quémande une once de destin, une miette, les restes. Ce qui veut dire approximativement 80 moins 30 égale 50 ans sans toi. Il te reste tes filles, tes filles serviables et dévouées. Tokyo, je prononce ce mot encore une fois dans une impulsion relativement sadique, je te l'accorde. Et ne t'avise pas de me rattraper.
Que se passe-t-il, Miss Taylor ? M'a demandé l'infirmière avec un calme insupportable. Alors j'ai montré ma gorge. C'était pourtant l'évidence même. J'ai tout fait, j'ai montré ma gorge vissée, incapable de faire circuler le moindre souffle. Les premiers mots que je réussis à prononcer furent « mon mari, mes filles, puis la phrase en entier. Qu'on fasse venir immédiatement Tom, Robin et Catherine. » C'est pas, Miss Taylor. Les visites sont terminées. Richard était un garçon rentré. J'en parle au passé comme si Richard était mort. J'en parle au passé à dessein. Richard est mort pour moi, puisqu'il a décidé de quitter ma vie. Il y a des meurtrissures indélébiles. Richard était un garçon rentré. Et il détestait d'ailleurs que je dise ça de lui. Il ne comprenait pas ce que voulait dire le mot « rentrer ». Richard était un taiseux. Ne sachant jamais trop comment manifester ses sentiments, la peur du ridicule ou quoi. Richard ne tenait pas le silence, non. Il préférait infiniment se taire. Car manifester un quelconque attachement, ça, non. Alors, il prenait des chemins de traverse. Nous ne savions pas grand-chose de lui, mais l'amour d'une mère se satisfait bien du silence d'un fils dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps. J'avais l'impression de le connaître par cœur, et il m'est arrivé d'ailleurs de marteler avec une énergie infatigable que je ne le connaissais pas. Incapable d'exprimer le moindre sentiment, mon fils, mais toujours prêt à me détromper, me contredire. C'était donc un garçon rentré qui avait ses moments de colère. Contre moi. Exclusivement contre moi. Ses sœurs, son père, rien. Juste un regard morne à leur adresser. Mais moi. Qu'avais-je bien pu faire? Sinon l'héberger pendant 9 mois et le libérer enfin. À ce sujet, il m'a toujours semblé que Richard n'en finissait pas de se libérer de moi. M'ordonner d'accoucher. Si l'on veut parler sans énigme ni détour, Richard m'a toujours soupçonné d'avoir refusé la coupure de ce foutu cordon ombilical. Alors que je ne faisais que l'aimer et vouloir son bien et me rendre utile dans sa vie. Mais il faut croire qu'à un certain moment, Richard a jugé que je ne lui étais plus d'aucune utilité dans la vie. Encombrante, plutôt. C'est bien la pire chose qu'il m'ait été donné de penser à propos de quelqu'un. Il se trouve malencontreusement que ce fut mon fils. J'aime tous mes enfants. Pas un dont on puisse dire qu'il a été lésé. Pas un que je n'accompagne sur ce trajet cruellement émaillé de fausses promesses et de vraies déceptions que l'on nomme l'existence. Tous mes enfants. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de me sentir seule. Et, évoquant mes enfants, je repense à cet abruti venu enquêter il y a quelques jours sur la misère existentielle qu'il espérait trouver au Madame Jojo's. La vie en couple chez les travaux. Et le voilà en train de nous graisser la patte et solliciter un peu de misère parce qu'il fallait bien que nous menions toute une vie misérable et glauque. Je commençais donc par le décevoir en lui annonçant qu'il n'avait pas affaire à un travelot, comme l'on dit communément, mais à une femme. J'ai payé suffisamment cher pour qu'on m'accorde cette petite faveur. Puis, je lui parlais de mes enfants, je m'attardais un long moment sur mes enfants, tandis que je voyais ses sourcils former une barre d'incompréhension assez symptomatique de l'expert dépassé par son sujet. Il lui fallut manifestement un bon quart d'heure avant de comprendre que je parlais en fait des clients de Madame Jojose. Je doute que mon cas figurera dans la sacro-sainte somme du dit enquêteur lors de sa parution. Mais je m'en bats les couilles, si vous voulez bien me prêter les vôtres, étant donné que j'ai payé suffisamment cher pour qu'on me débarrasse des miennes. Évidemment, pour raconter à Rebecca, elle est tombée de haut, la pauvre. Comment aurait-elle pu se douter de sort jamais, oh Madame Jojose ? Viens à la maison, ai-je immédiatement proposé à Richard lorsque j'ai vu sa tête ce soir-là. Mais il y avait encore beaucoup de résistance chez lui, et d'égarement aussi, totalement perdu, le pauvre. Je n'avais jamais vu à Richard ces yeux-là, alors j'ai insisté. Tu ne vas pas errer toute la nuit dans le seau ? Il a haussé les épaules. Tu es vraiment sûr de toi ? Il a fait oui de la tête. Et tes affaires ? Tu vas bien devoir y retourner pour prendre des affaires. Non. Il achetait quelques fringues au matin, mais pas question de retourner chez Suzanne. Alors, viens à la maison, mais je dis, au moins pour cette nuit, et plus si nécessaire, le temps de voir venir. Et comme il ne répondait pas, tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas errer toute la nuit, crêcher dans un hôtel minable avant d'aller au boulot. Je ne retournerai pas au boulot, Vanessa. Et je l'ai fait répéter, croyant avoir mal entendu. Je ne retournerai pas au boulot. Mais tu ne peux pas tout larguer d'un coup. Si, je peux tout larguer d'un coup, et c'est ce que je vais faire. Suzanne et le boulot. Bon, tu vas venir à la maison, mon pauvre ange. Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Alors, il a baissé les yeux comme un enfant blessé, coupable de je ne sais quelle faute innommable. C'est William qui nous l'a amené la première fois. William, où l'art est la manière de s'enferrer dans des plans impossibles. William est le roi de l'impasse. Il a manifestement un problème avec l'engagement. C'est ce que je lui dis souvent. Il balaie les grandes vérités d'un geste agacé. Mais une chose est sûre, William a un sérieux problème avec l'engagement. Pour preuve, les mecs qu'il nous ramène sont invariablement mariés ou refoulés. Tu vas finir par y laisser des plumes, dis-je souvent à William. William est la souffrance, donc. Quand je l'ai vu avec Richard le premier soir, aucune surprise. Encore un garçon marié, tout à fait hors de portée, suffisamment en tout cas pour que William s'amourache. En fin de compte, le bel innocent n'a pas eu l'air de se trouver mal, Madame Jojose. On était toutes là, à l'entourer comme des paons en rute. Je ne sais pas à quoi ressemble un paon en rute, mais l'image me tente assez. Tu l'as trouvé où, celui-là, encore ? William l'avait donné Michel à Bibici, collègue de Rebecca. Richard est marié, bientôt père. Tu vas dans le mur, William. C'est le ravin qui te tend les bras. Remarquez que cette fois, j'ai bien failli me faire avoir. Richard a commencé à venir fréquemment pour Madame Jojose. Il se trouvait très bien parmi nous. Alors je me suis dit, sait-on jamais ? Mais on ne devrait jamais se dire, sait-on jamais ? Il fallait les voir tous les deux. Ils étaient assez mignons. On aurait pu les prendre pour deux frères. Richard cherchait chaque soir des prétextes pour fuir le giron familial et c'était chaque soir un arrachement pour lui de quitter le Madame Jojose et rentrer s'étendre à côté de sa tendre épouse. Car voilà, Sitôt l'enfant né, Richard a commencé à se faire rare. William, seul, seul comme un chien, il leur arrivait de se croiser à la BBC, mais quelque chose avait changé. On n'a plus entendu parler de Richard pendant plusieurs semaines. Jusqu'à ce fameux soir où Richard est arrivé laminé pour Madame Jones. Il a bu tout ce qu'il a pu. Il s'est chargé comme jamais. Il m'a tout déballé. Il avait quitté Suzanne, envoyé une lettre d'insulte à sa mère, projeté un départ pour Tokyo, n'importe quoi en somme. Richard était totalement perdu. Et n'eût été la profonde amitié que j'avais maintenant pour lui, je lui aurais bien envoyé un coup de pied au cul en lui rappelant qu'il avait 30 ans et qu'il était en âge de prendre ses responsabilités. J'entends faire le ménage dans sa vie sans vider ses ordures chez les autres et briser tous les cœurs au passage. Tu vas venir dormir à la maison. Il a fait non de la tête. Bien sûr que si. Je ne te laisse pas prendre un taxi dans cet état, ni même errer dans Sceaux jusqu'à demain matin. Tu veux m'enfermer? Voilà tout ce qu'il trouva à dire. Je ralentis mon pas, passablement vexé, blessé, je crois. Je ne veux pas t'enfermer, connard! Je veux te sauver la vie! Je gardais ça pour moi et continuais à trotter derrière lui, ce qui m'était pénible avec les talons. C'est alors que je le vis partir comme un dératé, traverser la rue telle une moto, pencher dans un virage, éviter de justesse une voiture et foncer dans le noir. Je retirai mes escarpins, me mis à courir à mon tour en beuglant. « Laisse-moi !» fut la seule parole audible que je perçus, à quoi je répondis en hurlant « Je te déteste ! Ce soir, demain et tous les jours de l'année, je te déteste !» Mais il avait disparu. Je rentrais, la mort dans l'âme. Je me sentais bien seule, avec un sale sentiment d'échec et une amère blessure. Il n'est rien, ni personne, qui puisse me mettre en échec que mes enfants. Et c'était le cas. Et c'est toujours le cas. Puisqu'à ce jour, Richard n'est toujours pas réapparu.
Je doute qu'il en soit de même pour le théâtre. Quant à la vie, ce matin, j'ai cru que c'était elle. J'ai pensé l'avoir enfin rencontrée, cette fille que j'attends, cette fille que j'aime et qui se fait attendre. C'était elle qui allait me rendre à la vie et me délivrer de la grande nuit. J'ai toujours pensé qu'on étreint la vie qu'au moment de mourir. Et j'ai cru mourir ce matin lorsque je l'ai vue. J'y croyais. J'ai l'espoir et le désir tenace en dépit de tout ce que j'ai cru. Alors j'ai cru que c'était elle. Bien sûr, une peur têtue me mordait au mollet car il se pouvait très bien qu'elle descende de la rame au prochain arrêt et disparaisse dans la foule de mes faux frères travailleurs. Et moi, je continuerai jusqu'à Brixton, toute seule, comme une chienne. De nouveau seul dans la grande nuit dont l'éternité sera toujours plus longue que le plus long des tunnels de cet atroce métro. Qu'il crame, ce putain de métro! C'est tout ce que je nous souhaite parfois. Mais pas avant qu'il ne soit descendu de la rame. 8h du matin. C'est à 8h du matin, en sortant de chez William, que je suis arrivée sur le quai du métro. Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'avais la bouche encore pâteuse et crasse, puante de ma nuit sans sommeil, passée à consoler William. Tout le gin de William ingurgité au goulot. Je me rappelle avoir passé une bonne dizaine de fois « You get what you give » et avoir dit à William que je ne savais plus très bien si je croyais à ce que chantaient ces grands naïfs. « On ne reçoit rien, William. Rien. Tu donnes et tu ne reçois rien. Tu donnes au désert qui t'engouffre. » William m'a dit que je lui cassais les couilles. Avec ce morceau, j'ai rétorqué que je comptais sur lui pour foutre ça à mon enterrement. Le jour où je me serais vraiment balancée, vous ferez péter les New Radicals. Qu'on sache vraiment que j'y ai cru. J'ai essayé. Et j'ai dit genre. Et il n'y a décidément que David Beckham qui soit capable d'un vrai miracle dans ce foutu monde. Et je l'ai laissé comater. Je voulais dormir. Une heure ou deux au moins. Et puis l'angoisse me réveillerait en sursaut. Et là, j'arrive sur le quai. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Puis je l'ai vu. Il y a eu un temps d'arrêt. Je veux dire un temps d'indécision ou de reconnaissance. Jusqu'à ce que je me dise, cette fois c'est... Elle partait au boulot vraisemblablement. Une fille comme tout le monde avec un vrai boulot, mais peu importe. Je suis prêt à aimer une fille comme tout le monde avec un vrai boulot du moment que cesse la grande nuit et que je rencontre enfin cette fille que j'aime, que j'ai attendue, qui s'est faite attendre. Il y a eu un moment suspendu. Je l'ai observée avec insistance et sans tarder le désir qui ne lâche pas. Ne croyez pas ça, il ne lâche pas en dépit de tout ce que j'écris. Le désir m'a terrassé et je devais avoir encore ce regard impérieux. Je me déteste avec ce regard. Un regard qui prend possession parce qu'il en crève, parce que j'en crève. Ce regard qui doit passer pour un étranglement mais qui n'est qu'une déclaration d'amour. Si c'est elle, me suis-je dit, il faut bien qu'elle me comprenne dans les plus brefs délais, qu'elle se hâte de me reconnaître comme je l'ai reconnue. Mais à vrai dire, elle ne l'aura pas aperçu immédiatement ce regard. Que je me déteste et que mon désir darde avant même que je ne puisse civiliser quoi que ce soit en lui. Elle ne l'aura pas perçu puisqu'elle était de dos, légèrement penchée vers le tunnel à guetter l'arrivée du métro. Elle avait attaché ses cheveux bruns, mi-longs avec un simple élastique. Certaines mèches anarchiques trahissaient la précipitation du réveil. Elle faisait partie de mes faux frères travailleurs, contraints d'écourter leur nuit, toujours trop tôt pour aller bosser, exercer leur vrai métier. Mais je n'ai rien contre aimer une fille comme tout le monde avec un vrai métier. Elle partait au boulot, trop tôt à son goût, pas apprêtée, en retard sans doute. Elle avait avalé son petit déjeuner debout et filait sans autre égard parce que elle était déjà en retard et pas très bien réveillée. Ça, j'en eus la confirmation quand je pus apercevoir son profil, puis son visage tout entier. Elle avait de grands yeux noirs et des cernes, un putain de regard sous ses cheveux disciplinés à la va-vite, des lèvres un peu boudeuses, mais dont on pouvait imaginer qu'elles étaient capables d'un sourire inopiné. Ça, c'est moi qui imaginais ça, bien sûr, qu'elle pourrait me sourire, une fois que nous nous serions toutes les deux reconnues. Au lieu de quoi, elle m'a jeté un regard vague, que j'imaginais agacé. Alors, j'ai baissé la tête. J'avais honte. Cette putain de honte qui ne lâche pas. Honte, non pas de l'avoir regardé et de lui avoir dit d'un seul regard que je l'aimais. Le désir ne lâche jamais. Comment comprendre que ce putain de désir ne lâche jamais? Le jour où il aura lâché, je me pendrai au son du souffle de mon amour. Je me suis surprise à espérer. Espérer quoi? Si seulement vous aviez compris que mes pièces ne parlent pas de haine ni de violence, mais d'amour,
Il faudrait que je vous traîne, fils de pute, sur ce quai de métro et que vous la voyez, elle que je tente de ne pas regarder. Ah, le métro est arrivé. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi triste. Je me suis levée. Elle s'est engouffrée dans un wagon. Je l'ai suivie. Je me suis assise en face d'elle. Es-tu sûre au moins d'être amoureux de Richard? Et je demande à William. Avant de le quitter, sous le seuil de la porte, après qu'il eut 23 heures d'affilée et narré par le menu la chronique de son amour impossible, et j'avais cité cette phrase de Barker. Je serais prêt à traverser des kilomètres de verre pilé à plat ventre juste pour pisser un coup dans l'eau de son bain. Alors seulement on sait qu'on aime, avais-je ajouté. William a la vie pleine de ses inventions qui le brisent, mais William a ça pour lui, la vie pleine. Moi, ce n'est que vide, attente prolongée jusqu'au bout de la patience. Et je ne sais vraiment pas ce qu'il y a au bout de la patience. Il y a que je me balancerai probablement à force d'avoir tant attendu. Si je savais mentir et inventer quoi que ce soit, je serais moins malheureuse. Si je savais baisser le son de ce transistor infernal qui ne fait que m'adresser des larcènes impitoyables, mais je sais pas. J'arrive tant bien que mal à supporter le monde, mais je suis malade. Je ne peux supporter le monde sans être malade. Je ne peux supporter ce monde sans être malade. Je me tiens en vie, mais je ne peux qu'en être malade. Comment peut-on se tenir debout sans être malade mental ? Si tant est qu'on regarde vraiment les choses en face, telles qu'elles sont et s'incarnent en nous et autour de nous, la vie est un viol. Ce viol, c'est la vérité. C'est ce qui se passe réellement. J'admire et je ne comprends pas William. Et avec lui, quelques milliards d'humains qui contemplent le monde et se contemplent eux-mêmes et n'en sont pas malades. Où puise-t-il cette indifférence salutaire ? Alors oui, je suis malade mentale et mes dépressions sont archi-saines. Il y a mille et une raisons de regarder une inconnue. Moi, je n'avais qu'une seule et unique raison de la regarder. Et il y avait une chance sur mille pour qu'elle la partage. Nous nous sommes fixés. Comme ça. Quelques secondes. Ce qui m'a paru long. Même projetée à la vitesse de mon putain de désir. Et puis tout naturellement, elle a fini par regarder ailleurs. Et elle n'avait pas l'air de s'en porter plus mal. Elle n'en retiendrait rien. Un visage parmi tant d'autres. C'était deux stations avant Brixton et elle n'était plus là. J'étais dans la vérité, la grande nuit, toute de froide comme une tombe. Rideau. À Brixton, je suis descendue de la rame et j'ai réintégré la surface des vivants, le champ de l'impossible, là où rien ne me paraît plus possible. J'ai marché. Je n'avais plus du tout envie de rentrer me pioter chez moi. J'ai posé ici et là des regards vides, sans attente, puisque l'amour de ma vie venait de m'abandonner à deux stations de là. C'est alors que je l'ai vu. Sur le trottoir d'en face, Richard marchait d'un pas hésitant, sa chemise dépassée par l'endroit de son jean. Il n'était pas rasé. Je ne l'ai rencontré qu'une ou deux fois au Madame Jojo's, mais je l'ai tout de suite reconnu. Je l'ai d'autant mieux reconnu que ce n'était plus le même, m'a-t-il semblé. On aurait dit un pauvre fou échappé de Maudsley. Alors j'ai téléphoné immédiatement à William, que j'ai réveillé. Je lui ai dit que Richard était sur le trottoir d'en face. Je ne lui ai pas parlé de l'amour de ma vie qui venait de m'abandonner à deux stations dans Brixton. J'ai dit « Richard est là, à quelques mètres de moi !» Et comme il ne répliquait rien, j'ai gueulé dans l'appareil. « Mais qu'est-ce que je fais ?» J'ai eu un accès de panique, j'ai hurlé. « Mais qu'est-ce que je fais ? Bon Dieu ! Qu'est-ce que je fais ?» William a rien dit. Il s'est juste mis à pleurer. Impuissante, j'ai regardé Richard disparaître dans la bouche de métro de Brixton. Je me suis demandé ce que j'allais devenir. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais devenir.
J'ai pensé à l'amour de ma vie qui venait de m'abandonner à deux stations de là. Et j'ai écouté William pleurer.
Excusez-moi, je ne devrais peut-être pas dire ça.
Vous pouvez dire ce que vous voulez, Lydia. J'aime votre voix.
Qu'est-ce que vous aimez dans ma voix?
Je sais pas. Elle me rassure. Vous voyez, je suis capable de dire des choses bien plus idiotes que vous. Quel âge avez-vous?
24 ans.
Alors, finalement, nous n'avons que quelques années de différence.
Vous vous attendiez à plus?
Vous paraissez très jeune, c'est tout. Et moi, je dois me sentir très vieux.
Vous voulez dormir?
Non, parlez-moi de vous plutôt. Et puis approchez Cendrier, s'il vous plaît.
Que je vous parle de moi?
Oui, notre conversation au pub a tourné court. Je sais peu de choses de vous.
Que voulez-vous savoir?
Par exemple, ce qu'une fille comme vous fichait dans un trou pareil.
Vous avez les yeux cernés, vous êtes sûr que vous ne voulez pas dormir?
Non, je suis très angoissée à l'idée de devoir dormir. Je n'ai pas assez bu.
Vous avez besoin de boire pour dormir?
Que faites-vous à Douvres?
Je compte les ferrés.
Vous comptez les ferrés?
J'organise les départs et les arrivées. Il y a sans doute des métiers plus passionnants, mais voilà, c'est le mien.
Et vous êtes encore là?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous n'avez jamais eu envie de partir, prendre l'un de ces bateaux?
Pas pour l'instant.
Je m'apprêtais à embarquer lorsque nous nous sommes rencontrés.
Pour la France? Vous avez manqué votre bateau par ma faute?
En réalité, je n'étais pas très sûr de vouloir partir.
Et à présent?
Je ne sais toujours pas.
Vous venez d'où?
Ne me posez pas trop de questions, Lydia.
Vous êtes un tueur en série ou vous cherchez juste à exciter mon imagination en mal d'aventure?
Je ne serai pas votre Clyde.
Où sont vos bagages?
Je n'ai quasiment rien pris en partant, mais pas trop de questions, Lydia.
Dire que vous m'avez cru.
À propos de quoi?
Quand je vous ai dit que je comptais les ferries.
C'est pas le cas?
Allez savoir.
Non, dites-moi la vérité, j'aime beaucoup l'idée que vous comptiez les ferries. Je serais très déçu que ce ne soit pas le cas.
Vous partiriez de chez moi en pleine nuit?
Alors?
Si ça peut vous faire plaisir, admettons que je compte les ferrés. Vous voulez boire quelque chose et du whisky?
Non, merci. Il ne faut pas. Je ne suis pas de très bonne compagnie quand je bois.
Et moi? J'ai peur de vous ennuyer.
Mais bien sûr que non. Autrement, vous vous seriez inventé un autre métier que ça. Comédienne ou que sais-je.
Mon père me disait toujours... Tu n'es pas très maligne, toi. Il le disait d'une voix attendrie, mais j'ai toujours été persuadée qu'il le pensait.
Vous êtes très maligne, Lydia. Ça se voit tout de suite.
Je ne vous ai pas menti. Je compte les ferries et je voudrais que vous restiez quelques jours avec moi avant de partir.
Bah, qui vous dit que j'ai vraiment envie de partir?
Alors, vous allez rester quelques jours avec moi? Vous ferez la cuisine pendant que je travaille, puis nous ferons l'amour et vous me raconterez combien de vies vous vous êtes inventées.
Vous n'avez pas de petite amie?
J'ai connu quelques garçons, mais je ne les ai pas trouvés admirables.
Admirables? Quelle drôle d'idée. Vous voudriez admirer les hommes?
Pourquoi pas? Je veux croire qu'ils ne ressemblent pas tous à mon cher père.
Et il habite où, votre cher père?
Vous avez remarqué que je réponds à toutes vos questions docilement, contrairement à vous?
Je vous assure, ma vie n'est pas très intéressante.
Richard est un homme en fuite. Je ne peux pas lire davantage sur ses traits, mais au moins ça. Cet homme fuit. Je pourrais légitimement envisager le pire, mais il a été tellement doux avec moi que je ne parviens pas à le craindre. Mon père n'habite plus ici depuis longtemps. Je ne le vois plus.
Et ils étaient comment, ces garçons que vous avez connus? À vrai dire, j'ai très peur de leur ressembler.
Non. Vous êtes très différents. Vous fumez beaucoup.
C'est pour me passer l'envie de boire. Revenez près de moi, Lydia.
Les garçons que j'ai connus étaient blessés, comme vous. Jurez-moi que vous allez rester quelques jours.
Je ne jure plus depuis très longtemps.
Quelques jours?
Vous serez soulagé le jour où je repartirai, ça, je peux vous le promettre.
C'est tellement bon avec vous. Demain, je voudrais que vous veniez me chercher au bureau. Ce serait agréable, non? Que vous veniez me chercher au bureau, non? Il va bien falloir que vous sortiez. Vous n'avez pas mis le nez dehors depuis que vous êtes là.
Oui, je sais.
Voilà une semaine que vous vous terrez dans cet appartement sordide. Il y a de quoi désespérer chez moi. Je pourrais vous présenter quelques amis.
Lydia, je...
Vous? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas.
Quel jour sommes-nous là?
Jeudi soir, enfin vendredi matin.
Vous allez être épuisé.
Je dormirai ce week-end.
Comment avez-vous fait pour travailler toute la semaine? On s'endort si tard. Eh, je voudrais pas être la cause d'un accident de ferry quand même.
Vous dormez l'après-midi en m'attendant?
Non.
Alors, vous voyez bien. Jurez-moi que vous viendrez me chercher demain au bureau et nous irons boire une bière.
Vous me demandez toujours de jurer.
Jusqu'à maintenant, vous avez toujours tenu vos promesses.
Oui, mais enfin, une semaine, c'est mince pour statuer sur la confiance que vous pouvez m'accorder.
Une semaine me suffit.
Vous êtes une optimiste, vous. C'est une belle chose. Gardez ça précieusement.
Est-ce que vous êtes bien avec moi? Je veux dire, aussi bien que je le suis. Richard me serre contre lui. Je sens son sexe enflé contre mon ventre. C'est la façon toute particulière qu'ont les hommes parfois de répondre aux questions. Moi, je voudrais des mots. Quelques mots simples. Stop! À quoi pensez-vous?
Comment ça?
À quoi pensez-vous au moment où j'ai dit stop? C'est mon jet préféré que je lance à chaque fois en désespoir de cause. Les hommes ne daignent jamais y répondre, les hommes n'aiment pas répondre à mes questions.
Je pensais que j'ai envie de vous faire l'amour, mais qu'il est très tard et que vous travaillez très tôt.
C'est pas grave, Richard. Ce sont des choses qui arrivent.
Ne dites rien.
Vous m'avez fait jouer toutes les nuits depuis un mois, alors c'est vraiment pas grave. Et puis, vous avez beaucoup trop bu ce soir, tout s'explique.
Tout s'explique.
Vous êtes ivre, calmez-vous.
J'ai froid, oui. Et si je m'écoutais, tu boiras un autre whisky.
Je remonte le drap sur lui et je vais le servir.
Vous cédez?
Si ça peut vous faire du bien. Vous avez l'air tellement mal. J'ai l'impression de passer mes nuits avec vous depuis un siècle miraculeux.
Ah non, par pitié, ne parlez pas de miracle. La vie n'a jamais été que l'exact inverse.
Vous avez fait quoi aujourd'hui?
Je vous ai attendu. Comme tous les jours depuis un mois. J'ai marché. J'ai regardé les ferries s'éloigner.
Vous avez envié ceux qui étaient à bord? Vous iriez où? Vous parlez français? Pourquoi est-ce que vous refusez obstinément de venir me chercher au bureau? Vous vous promenez bien sur les quais pendant la journée. Alors pourquoi pas avec moi?
Je sais que vous y tenez, je suis désolée.
Je ne vous demande pas de vous excuser, juste m'expliquer.
J'ai vécu 8 ans avec une femme, Lydia.
Vous l'avez quittée?
Oui. Juste avant d'arriver ici.
Vous savez pourquoi? Vous partagez une cigarette avec moi?
Depuis que nous nous connaissons, vous fumez presque tous les jours. J'ai une très mauvaise influence sur vous.
Ça me plaît de fumer avec vous. Alors c'est à elle que vous pensez toute la journée en m'attendant? Cette femme?
Nous venions d'avoir un enfant. Et oui, c'est à elle que je pense tous les jours en vous attendant. Je crois savoir pourquoi je vous quittais.
Alors pourquoi?
Je la rendais malheureuse. Cette pensée m'était devenue totalement insupportable.
Elle vous aimait?
Oui, je crois, oui. Mais je ne suis pas fait pour rendre une femme heureuse.
Comment vous pouvez dire ça?
Je le sais, c'est tout.
Moi, vous m'avez rendue heureuse.
Mais c'est pas ça, Lydia. Vous vous contentez de la lueur d'un feu follet, ça n'a qu'un temps.
Vous voulez m'annoncer que vous allez partir?
je vous parle de ma vie, pour que vous n'attendiez rien de moi. Et maintenant, je vais vous prendre dans mes bras. Vous voulez bien ?
Encore quelques jours, Richard. Vous m'avez rendue si heureuse. Je contemple son beau visage. Je sais que nous allons à la défaite, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je ne réponds plus au téléphone. J'écoute. Je note les messages. Je rappelle en conséquence. J'ai le teint gris d'excite mes parents. Je n'invite plus mes parents à dîner. Je me déplace. J'ai mis l'appartement en vente. L'agent immobilier n'a pas tardé à trouver un acquéreur. Il voulait fixer un rendez-vous pour la visite. J'ai dit, je ne vends plus. Je ne dors plus dans la chambre. Je préfère le canapé convertible du salon. Les lattes de bois percent à travers le mince matelas et persécutent mon dos, mais je persiste à préférer le canapé du salon. Quand je ne me sens pas bien, je gobe des anti-inflammatoires et j'attends que ça passe. Ça passe, sans que je me soucie de mettre un nom sur la chose. J'emmène la petite chez le pédiatre quand je le juge nécessaire. La petite est sur mesure, mais elle est souvent malade. C'est normal, les enfants sont toujours malades. Je ne prête même plus attention aux photos sur les murs. Mon regard les évince de mon champ de vision, sans que j'aie à mettre un nom sur la chose. J'ai l'œil cireux, Dixit, mes collègues de travail. Je gobe des anti-inflammatoires. J'attends que ça passe, et ça passe sans que je me soucie de mettre nom sur la chose. Tu n'as pas l'air en forme ces temps-ci. Si, pourquoi ? Il y a bien quelque chose qui pense dans mon dos et me vide. Mais ça, je ne peux pas l'empêcher. De moi-même, je ne pense à rien. J'ai trouvé des anxiolytiques dans la pharmacie de mes parents. Alors j'ai remplacé les anti-inflammatoires par des anxiolytiques. J'en prends un ou deux par jour, selon ma capacité à ne penser à rien. Plus du vin. J'espère par là anesthésier ce quelque chose qui pense dans mon dos et me vide. Parfois, je me demande pourquoi j'ai refusé la vente de l'appartement. Je laisse penser la chose dans mon dos. J'empile soigneusement le courrier qui lui est adressé. Je reconnais les factures, je les ouvre et je paie. Je reconnais ses relevés bancaires, je les empile sans les ouvrir. Je pourrais ouvrir et consulter ses relevés bancaires. Je saurai où il est et quand et combien. Je l'imagine débarquant à l'appartement et jaugeant la pile. Et à côté, les factures que j'ai payées sur le compte commun, les factures que j'ai triées et classées par date. Je suis irréprochable. Je fais tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il convient de faire. Deux anxiolytiques, plus du vin. Parfois, quand j'ai pris seulement un anxiolytique et pas de vin, j'ai envie de mourir. Parfois, quand j'ai envie de mourir, je regarde la petite dormir. Je ne sais pas ce que j'en pense. C'est trop violent. Du vin californien. Souvent, je me demande si la petite pense. Je ne le lui souhaite pas pour le moment. C'est trop tôt. Je ne lis pas. Ça m'obligerait à penser. Je ne réponds plus au téléphone parce que je ne veux pas qu'on me parle de lui. Sur le répondeur, ils disent « Que se passe-t-il ? » Il ne se passe rien. Avec le temps, ils n'appelleront plus. Et il reviendra. Richard est l'homme de ma vie. Je le sais maintenant. C'est dans mon dos et ça me vide. Alors je m'efforce de ne pas y penser.
Mais ce n'est pas toujours possible. Maman dit, il ne reviendra pas. Je dis, ta gueule. Elle me gifle, puis elle s'excuse. Elle dit, c'est pour ton bien que je dis ça. Je rétorque, je sais où est mon bien. Merci. Qui a sensiblement chuté. Je suis irréprochable au bureau. Personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Le temps dure longtemps. Parfois, la petite se met à pleurer au milieu de la nuit. Alors, je me lève et je vais la calmer. Parfois, je me lève pour aller la calmer, mais je reste plantée sur le seuil de la porte, incapable de la prendre dans mes bras. Alors, je la regarde pleurer. Elle aussi me regarde et elle pleure d'autant plus. Je repars me coucher. J'ai changé. Pourtant, je m'alimente normalement. La petite aussi a changé. Mais pas comme moi. Ça doit être le vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est écrit partout. Mais j'en ai besoin. Alors ? Quand j'ai pris seulement 2 anxiolytiques et pas de vin, j'ai envie de mourir. Il arrive que la petite hurle plusieurs heures d'affilée. Je la regarde hurler. Le plus dur, c'est la nuit. Penser à rien. Payer la note de téléphone et tenir bon. Peut-être ne suis-je pas du tout capable d'élever la petite. Je ne me sens pas très bien. Ça ne va pas très bien. Avant, je parlais beaucoup. J'avais cette réputation. On se moquait de moi gentiment. Que se passe-t-il ? Il ne se passe rien. Il y a juste que je tiens bon. Alors ça prend tout mon temps. Je sais où est mon bien. Merci.
Rebecca ? Rebecca, c'est moi. Tu m'entends ?
Oui. Je l'entendais évidemment, cette voix qui n'avait pas résonné à mon oreille depuis 4 ans. Richard ?
J'ai de la chance que tu n'aies pas changé de numéro.
Richard, où es-tu ?
Dans une cabine, près de Hyde Park. Tu fais quoi, là ?
J'allais chez ma banquière et puis y travailler.
On peut se voir ?
Dis-moi où. Je te rejoins. Sa beauté s'était effondrée. Je ne pus m'empêcher d'être assaillie par ce constat au moment où il me prit dans ses bras et me serra. Cette beauté dont Richard n'a jamais eu réellement conscience, cette beauté avait laissé place à un masque cerné et légèrement bouffi comme le reflet d'un miroir déformant. Alors tu es revenu ?
Revenu ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis là pour le moment.
Tu veux que nous allions quelque part ?
Marchons un peu.
J'acquiesçais, incapable de détacher mes yeux de son visage, cherchant encore et toujours les traces de sa beauté disparue. Cet effacement me semblait d'autant plus cruel que sa voix n'avait pas changé ni ses gestes lents qui l'accompagnaient de longs silences.
Toi, que deviens-tu ?
J'ai mon émission, à moi.
Tu as enfin ton émission ? Tu le mérites. Je suis heureux pour toi.
Tu ne l'as jamais vu ?
Oh, il y a longtemps que je n'ai pas regardé la BBC. Et quoi d'autre ?
Je suis amoureuse. Il s'appelle Martin. Nous vivons ensemble depuis 2 ans.
Tu es amoureuse. Tu vois que tout arrive. Toi qui disais avoir une noix à la place du cœur.
En l'occurrence, la noix eut un pincement déchirant. Et toi ? Où étais-tu ? Tu as des nouvelles de Suzanne et de ta fille ?
Tu en as sans doute plus que moi.
Je n'en ai pas. Aucun de nous n'en a.
Nous ?
William, Vanessa.
William, Vanessa.
Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ?
J'ai épuisé mes économies, sans jamais me fixer nulle part.
Et tu n'as pas donné de nouvelles à ta famille ? As-tu travaillé ? As-tu aimé quelqu'un ? Que s'est-il passé dans cette tête ?
Toi, au moins, tu as avancé. Tu es devenu quelqu'un. Ça suffit à me réjouir. Il y a un sacré bout de temps que je ne me suis pas réjoui, tu peux me croire.
Alors tu as voyagé ?
Oh, pas bien loin.
Suffisamment pour être à sec, c'est ça ? Rentrons dans ce café, j'ai froid. Une fois installé, je sortis quelques billets.
Non, Rebecca.
Ne discute pas.
Je ne t'ai pas appelé pour te demander de l'argent.
Si tu ne les empoches pas, c'est ma banquière qui me les volera d'une façon ou d'une autre.
Je ne peux pas prendre cet argent.
Je glissais les billets dans la poche extérieure de sa veste. Qu'as-tu prévu à partir de maintenant ?
Je n'ai rien prévu.
Maintenant que tu es revenu ?
J'avais juste envie de te revoir.
Tu n'as appelé personne d'autre ? Même pas Suzanne ? Tu n'as pas envie de connaître ta fille ?
Je crois que je ne pourrais pas soutenir le regard de Suzanne.
Pour ta petite fille.
Peut-être que j'irai tout à l'heure. J'espère qu'elle a refait sa vie.
J'imagine qu'elle n'a pas eu le choix.
Je ne tenterai pas de me défendre, Rebecca. Ni devant toi, ni devant elle.
Je fixais ses yeux délavés qui m'avaient paru si clairs et précis il y a quelques années. Si tu savais, aurais-je voulu lui dire combien je t'ai aimé ? Tu n'en as jamais rien su et je veux croire que ça te ressemble bien, finalement, de ne t'être aperçu de rien. Aujourd'hui, tu ne me croirais pas. Il faut que tu fasses quelque chose de toi, Richard. Tu ne vas pas encore repartir sans but.
Penses-tu que les assassins qui sortent de prison peuvent s'inventer un but ?
Je ne comprends pas ta comparaison. Et oui, je pense que même les assassins finissent par s'inventer un nouveau but.
Non. Ils rendent visite aux rares personnes dont ils savent qu'elles leur sont restées fidèles. Puis ils s'enferment loin de tout, là où ils ne connaissent personne, et ils laissent le temps passer, en ne donnant plus aucun espoir à personne. Ils ne laissent plus personne les admirer, ni les aimer.
Mais pourquoi ne pourrais-tu pas te reconstruire une vie avec quelqu'un ? Je dois aller au bureau, Richard, j'ai une émission à tourner. Veux-tu venir à la maison ce soir ? Nous vivons en colocation avec Vanessa et William, ils seraient tellement heureux de te savoir vivant. Ils ne te jugeront pas, tu le sais. Richard sortit quelques pièces de sa poche et les déposa sur la table. Nous sortîmes du café et fûmes saisis par le souffle glaçant d'octobre. Les lumières étaient basses et grises, comme à la tombée de la nuit.
Merci, Rebecca.
Il m'embrassa sur le front et héla un taxi. Appelle-moi. Tu vas voir Suzanne? Il approuva, m'adressa un dernier regard et s'engouffra dans le véhicule. Son visage disparut derrière le reflet de la vitre. Le lendemain, je trouvai un message confus et affolé sur le répondeur de mon téléphone portable. Richard pleurait. Rebecca, il s'est passé quelque chose. C'est tout ce que je réussis à tirer de ces balbutiements entrecoupés de larmes. Et puis, plus rien.
Alors, je ne vous apprendrai rien en la matière. Toujours est-il que je suis bien heureuse de vous revoir et bien contente de votre jardin et que votre jardin se porte à merveille. J'espère que tout va aller pour le mieux et que vous allez reprendre vos gouaches là où vous les aviez laissées. C'est de pire en pire. Qu'en pensez-vous? Les bégonias flétries et les géraniums, quel carnage! Si vous aviez vu les géraniums du temps de leur splendeur. Je me présente. Evelyn Betts, la voisine. Vous êtes le professeur McLagan, n'est-ce pas? Il parle souvent de vous depuis son retour de Millennium. Enfin, si tant est qu'on puisse estimer notre homme bavard. Vous connaissez l'animal. Pork pie et mushrooms, hein? Ça vous va? Ah, sauf que j'ai bien peur de l'avoir raté, il ne monte pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai bien envie d'accuser votre four, cher ami. Depuis combien de temps n'avez-vous pas Vous savez que vous avez bien meilleure mine qu'hier. Ne faites pas long de la tête, je vous assure que vous avez bien meilleure mine qu'hier. Pas de nouvelles de la petite voix. C'est toujours ça de gagner. J'y pense. Le professeur McLagan a rajouté un petit médicament de rien du tout qui devrait vous faire beaucoup de bien. Ah, avez-vous au moins avancé sur cette épouse à la fenêtre? Vous étiez pourtant bien partie. Elle n'avait pas l'air très heureuse, cette épouse. Mais vous étiez fort bien partie sur cette toile.
L'entendre ou veux-tu que je te le chante? Sache une bonne fois pour toutes que je suis très heureuse comme ça. Tu t'attendais à quoi, au juste? Non, par pitié, ne me dis pas que tu vas me blesser inutilement. La vérité, c'est que tu ne me connais pas, ou très partiellement. Alors ne viens pas m'expliquer du haut de ta supposée omniscience que tu m'as percée à jour. Je suis très heureuse comme ça, et je regrette que ma vie te paraisse si glauque. Tu remarqueras que je ne te juge pas, moi. Je t'imagine très épanouie, flanquée de ton mari et de tes deux enfants. Je ne te juge pas, vois-tu? Alors j'attends de toi en retour que tu ne me plaignes pas. Je te prie d'abandonner ce petit air de commisération. Tiens-le-toi pour dit, tu ne me connais pas. Une célibataire de 30 ans peut être très heureuse. Vous m'angoissez tout avec votre sacro-saint cap des 30 ans. Je ne vois pas où est le problème. Je vis très bien avec moi-même et les plages de solitude que je connais entre deux liaisons me comblent. Parce que oui, il m'arrive d'avoir des liaisons. Parfois même des histoires. Excuse-moi du peu. Les amis manquent cruellement d'imagination. Les amis s'entêtent à vouloir plaindre la pauvre et pathétique célibataire sans imaginer une seconde que la dite nonne a vraisemblablement une vie qu'elle ne daigne pas partager. Alors découvrant le méfait, les amis se déclarent meurtris ou trahis de n'avoir pas été tenus au courant dans les plus brefs délais. Elles finissent par reconnaître qu'elles t'ont cru frigide, puis lesbienne. Rien de tout ça, merci au passage pour les lesbiennes. Non ? Rien de tout ça, juste la pudeur. Tu sais, cette chose devenue rare au point de passer pour quasiment subversive. Alors non, je ne t'ai pas présenté Philippe. Philippe est à présent sorti de ma vie et tu ne l'auras jamais connu où est le crime. Mais pourquoi est-ce que je te parlais de Philippe? Ah oui, nous évoquions la masturbation. Et puis nous avons dévié sur mon célibat qui a l'air de t'effrayer au plus haut point. N'aie crainte, personne ne te demande de vivre ma vie. En revanche, je t'interdis de balayer d'un geste compassionnel ce que tu imagines d'elle, qui n'est pas si triste que ça entre deux liaisons. Et pour revenir à ce qui t'intriguait, à savoir ma sexualité entre deux liaisons, oui, je me masturbe. Je suis de plus en plus vaginale d'ailleurs. J'ai découvert ça récemment. On est spontanément et couramment clitoridienne. En ce qui concerne le plaisir vaginal, c'est un travail. Comme la sodomie. Ça te gêne que je parle de mon vagin et de mon sphincter? Ou est-ce que je parle trop fort? Excuse-moi. Je vais me faire plus discrète. Donc, je me masturbe entre deux liaisons. Tout ça est très sain, me semble-t-il, et je repense toujours à la phrase de William Blake. Le désir, quand il n'est pas suivi d'action, engendre la pestilence. Alors voilà, j'agis. Et je suis très heureuse comme ça. Parce que très franchement, si c'est pour finir comme mes voisins, très peu pour moi. Je t'ai parlé de mes voisins. Laisse-moi te dire une chose. J'avais rarement vu un couple aussi angoissant. Je sais ce que tu vas me dire, c'est un jugement de valeur. Alors oui, j'avoue, il m'arrive de porter des jugements de valeur, moi aussi, mais vois-tu, Je me permets cette entorse à mes principes philanthropes pour une bonne et simple raison. L'histoire ne m'a pas donné tort. Tu te souviens que le mari a disparu il y a 4 ans? L'intuition est parfois bonne conseillère. Il m'avait suffi de les croiser dans l'ascenseur pour ressentir le degré de glaciation dans lequel ils croupissaient tous les deux. Ça se voit, une vie en creux sur un visage. Je songe d'ailleurs à ce que tu aurais dû lire dans mes yeux depuis longtemps si tu avais eu un tant soit peu d'intuition. Je dois te dire que tu as très peu d'intuition. Je le pense depuis très longtemps, te concernant. Tu aurais dû remarquer mon visage radieux. Au lieu de t'inquiéter pour moi, tu aurais dû te dire, tiens, Jennifer doit avoir une liaison en ce moment, ou bien Jennifer s'est masturbée la nuit dernière. Mais tu n'as pas vu la satiété dans ma rétine. Tu n'as pas voulu croire que j'étais heureuse parce que tu n'es pas heureuse toi-même, qu'en penses-tu? C'est ce que je cherche à t'expliquer à propos de mes voisins, même si je ne te souhaite vraiment pas d'en arriver là. J'ai tout de suite vu qu'ils n'étaient pas heureux et que leur couple était en fin de course. Pas besoin de les connaître pour ça. Le mari a abandonné femme et enfant il y a 4 ans, jusque-là c'est banal à pleurer. Quoique tu aurais dû voir ses yeux qu'il me faisait quand je le rencontrais dans l'ascenseur. Richard Taylor, il s'appelait. Il y avait chez ce type quelque chose de désarmant. Non pas l'œil torve du maniaque libidineux et frustré, mais la détresse d'un homme seul. Seul avec sa femme et sa gosse. Ce qui est la pire des solitudes, tu avoueras. Le genre de mec qui mérite autre chose en quelque sorte. Et non, je te vois venir, je n'ai jamais eu la moindre intention scabreuse à l'endroit de ce pauvre type, les hommes mariés très pour moi. Mes voisins donc. La femme s'est défenestrée 6 mois après la disparition de son mari. Je t'assure. J'étais en train de me masturber et entre 2 contractions, j'ai entendu un bruit sourd. Je me lève, suante, je passe mon peignoir, je me penche par la fenêtre. Là, je vois la femme Taylor et l'enfant maculé de sang devant l'entrée de l'immeuble. T'imagines? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cette pauvre fille? C'est abyssal. Imagine le degré de désespoir qu'il faut pour en arriver là. Bref. Le temps passe, et voilà que je trouve le mari Taylor dans l'escalier de l'immeuble la semaine dernière. Je t'assure, juste en haut des marches, je lui dis « Vous êtes revenu ?» Et c'était idiot de dire ça, je te l'accorde, mais c'est sorti tout seul. Il a jeté un regard d'incompréhension en direction de son appartement. Il avait dû remarquer l'étiquette au-dessus de la sonnerie avec le nom des nouveaux propriétaires. Et là, subitement, je comprends. Je me dis, nom de Dieu, il n'est pas au courant. Et c'est sur toi que ça tombe, Jennifer Wilson. À toi, le plaisir et l'avantage, plus de 3 ans après, d'annoncer à ce pauvre type que sa femme s'est foutue en l'air avec l'enfant. J'ai essayé de tâter le terrain pour m'assurer qu'il n'avait vraiment pas eu connaissance des faits et je me suis jetée à l'eau, enfin... Disons que je me suis efforcée de le repêcher car c'est lui qui, 3 minutes plus tard, était en eau. Il a pleuré, un long moment dans mes bras, alors je lui ai dit « Entrez, je vais vous donner quelque chose à boire, vous ne pouvez pas rester comme ça. » Et il a fait non de la tête. Puis il a eu un faible sourire qui m'a déchiré le cœur. J'ai insisté « Je vous en prie, entrez, vous ne pouvez pas partir comme ça. » Il a fait non à nouveau. Je ne savais plus quoi faire. On appelle qui dans ces cas-là? Je l'imaginais déjà en haut d'un pont en train de fomenter le grand saut, mais je ne savais pas qui appeler, tu comprends? Il a dit, ça va aller, je vous assure. Et en mon fort intérieur, je me disais, non, ça ne va pas aller du tout. Ça ne peut pas aller du tout. Il a ajouté, je n'oublierai jamais votre petite voix. Je ne sais pas ce qu'il y avait à comprendre là-dedans. Tu trouves que j'ai une petite voix, toi? Mais il a dit ça qu'il n'oublierait jamais ma petite voix. Est-ce que je peux juste emprunter votre portable? J'ai approuvé et je le lui ai tendu. Il est manifestement tombé sur une messagerie vocale, il s'est mis à sangloter. Rebecca, il est arrivé quelque chose. Puis il a balbutié une ou deux phrases inaudibles. Il a raccroché et m'a rendu le portable. Il m'a salué d'un signe de la tête et je l'ai suivi des yeux dans la cage d'escalier. Quand je pense à cette pauvre Suzanne Taylor et le regard de son mari quand il a vu l'étiquette avec le nom des nouveaux propriétaires, oui, c'est glauque. Je te l'accorde. Tu vois, nettement plus glauque que ma vie de célibataire, qui ne m'a jamais donné envie de sauter, je te le certifie. Je disais d'ailleurs à Philippe, peu de temps avant notre séparation, si je dois mourir demain, je pourrais dire que ces 10 dernières années ont été formidables et que je ne regrette rien. J'aime ma liberté et ma vie ressemble peu ou prou à ce que j'espérais. C'est peut-être stupide de penser à tout ça à 32 ans. Quoique non. Je te conseille vivement de t'interroger à ce sujet parce que je n'ai pas l'impression que tu vas très bien en ce moment. Je me trompe? Mais dis-moi, ça te choque vraiment de savoir que je me masturbe?
C'était la disparition de Richard Taylor sur la grenouille en direct du Théâtre National de Marseille. Il a crié la disparition de Richard Taylor, un texte d'Arnaud Catherine, mise en scène, mise en espace par Ninon Bretéché, avec Jésabelle d'Alexis, Catherine Hérald, Julie Recoin et Arnaud Catherine. À la criée, la lecture est suivie d'une rencontre avec Arnaud Catherine, avec Ninon Bretéché et les actrices, donc qui va se dérouler dans la salle de restaurant de la criée. Voilà, nous on va rendre l'antenne à la programmation musicale. Le docteur Zoom est parti, mais il nous a laissé une petite sélection musicale en guise au revoir. Un titre de Dominica qui a été choisi il y a je sais plus quand. En tout cas, Télérama avait demandé à Arnaud Catherine une petite playlist de 5 titres et ce titre de Dominica pour La Peau faisait partie de cette playlist. Donc on va se quitter avec ça. Merci d'avoir été à l'écoute. À la technique, il y avait Tony Regnault et Sébastien Gély. Merci à eux et à bientôt sur les 3-8.
Comme tu as su attendre. Comme tu lui as parlé, et comme elle résistait, elle voulait se défendre.